des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Gilles Proulx. Le où, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas que la ricanade. Parle, genre.
Gilles Proulx.
C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information.
Voici le commentaire de Gilles Proulx.
Gilles, on apprend le décès du promoteur de boxe Régis Lévesque, que j'ai déjà rencontré, un personnage coloré comme il ne s'en fait plus. Tu sais, il y en avait des personnages comme ça à l'époque, Tigui Aimon, le journaliste sportif aussi, là, c'était des personnages, il me semble qu'il y en a moins, vous en êtes un aussi, un des derniers des Mohicans, donc vous le connaissez bien j'imagine Régis.
Ah, très bien, j'étais même ami avec lui, je l'ai aidé à quelques reprises. J'avais organisé un bien cuit à l'hippodrome à l'époque. On avait attiré 650 personnes, il y avait des dettes, il m'avait confié qu'il y avait 17 000 $ de dettes, on y avait ramassé 22 000 $ puis il rêvait toujours de sa Cadillac rose. À chaque fois que je l'interviewais, il parlait, après mon succès, je vais m'acheter une Cadillac, je vais trouver une Cadillac rose. Non, pas une Cadillac rose. Et il admirait Elvis, évidemment, puis le country. Et on y avait offert, parce que parmi le comité qui avait organisé avec Ménic, le Barbie Ménic qu'on connaît,
oui.
Une cueillette d'argent pour 22, 23 000 $ et on y avait donc payé ses dettes et acheté une Cadillac d'occasion. Ah, c'était pas des farces de le voir pleurer. C'était un gars attachant, c'est un folklore unique, c'est un gars bon. Il paraissait dur parce qu'il était dans le milieu de la boxe, mais souvent dans le milieu de la boxe, c'est là qu'on rencontre les gens les plus tendres.
Ben oui, puis Gilles, faut le dire, là, la façon dont il parlait, des fois, il était pas facile à comprendre.
Non, il avait son langage de la Mauricie, de Trois-Rivières, un grand amoureux des chevaux, puis des courses, évidemment. Il a perdu tout ce qu'il avait gagné à l'hippodrome, pensant toujours qu'il gagnerait avec la prochaine, mais organiser des combats. C'était un gars pas instruit, mais intelligent comme deux singes. Par exemple, je me rappelle quand il avait voulu organiser un combat de nature internationale entre Robert Cléroux et un autre ancien champion du monde, dont le nom m'échappe, là, tous les deux étaient dans le grenier depuis un certain temps, Robert Cléroux, qui l'aime beaucoup d'ailleurs, et comme ils étaient dans cinquantaine, Pierre-Marc Johnson, ministre de la Justice, s'était opposé à tout ça, puis ça avait pas de bon sens, puis on lui donnait pas de permis. Il avait imaginé, il avait tellement d'imagination, mais dans ce cas-là, tabarnak, on va louer un 747 et on va faire le combat à 35 000 pieds dans les airs.
Ben ça, c'est une légende urbaine ou c'est vrai? Le gars, il avait voulu organiser un combat de boxe dans un avion.
Oui. C'était vraiment une idée, puis il avait fait une démarche pour savoir que techniquement, comment est-ce que tu pourrais faire ça, puis au-dessus de Montréal, puis bon, avec le satellite pour la télédiffusion. Donc, c'est un gars qui avait une imagination débordante quand il était mal pris. Il trouvait toujours une porte de sortie et profondément humain. Moi, je me rappelle quand je me suis occupé d'Alex Hilton, c'est Alex, on m'a souvent associé, ça m'a pas toujours été un bienfait pour moi, pour la décolle des Hilton, c'est pas bon pour toi, bon, etc. Mais Alex, je l'avais pris en adoption, puis je négociais ses contrats, et puis là, Régis m'a dit, fais attention, le tabarnak, son traite, il peut me revirer de bord. Et là, il m'avait raconté quand Dave était pas satisfait d'un contrat, puis il l'avait rencontré à son bureau. À son bureau, c'était au Lili Beauvien, un restaurant, et puis un samedi matin, puis il dit, justement, bon, tabarnak, je me suis retrouvé en dessous de la table, je voyais des étoiles, puis j'avais la babine enflée, puis Alex était parti, Dave était parti. Il était pas satisfait du contrat. Voilà comment ce qu'on négociait. Alors, moi, comprends-tu, je commençais, je dis, ah, je suppose que je me fasse jouer le même tour avec Alex. Et finalement, avec Alex, je m'étais organisé avec le promoteur, Martel, qui était un compétiteur de Régis. Et puis, combien tu vas y offrir? Puis, je vais y offrir 6 000 $, ça n'a pas de bon sens. Écoute, un peu, ils vont me faire lapider. Et j'avais dit, je t'ai organisé avec le gars des vues, j'ai dit, écoute, je vais te faire comme au journal du midi, offre-moi au moins 8 000, je suis capable de monter à 8 000, oui, on va monter à 8 000, c'est le plus que je peux aller. Alors là, je vais t'envoyer une avalanche de bêtises, et puis pour voir comment Alex va réagir. Et finalement, c'était ça, quand il avait monté à 8 000, là, je l'avais dit, c'est le retour de Guy Lafleur, voyons donc, Martel, ça n'a pas de bon sens. c'est un Hilton, il va te vendre 2000 billets. Puis là, dans ce cas-là, je vais monter à 8000. Puis là, mon Alex va dire, Gilles, t'es meilleur que mon père. Alors, comme ça que je m'étais introduit comme négociateur de ces contrats avec Régis en arrière-scène de tout ça. Alors, de Régis, je retiens un souvenir tendre, intarissable de ses enfants qui sont bons, sa belle-fille qui vivait au Costa Rica, qui doit être revenu depuis ce temps.
Ces gars-là, là, je fais un parallèle. Moi, j'ai participé à un documentaire. J'ai fait un documentaire sur Tigui Aimond. Puis j'ai fréquenté Tigui Aimond pendant une couple de fois. Puis c'était des gens. My God, ça existe plus, des bonhommes de même. Là.
C'est du beau incroyable. C'est des personnages en voie de disparition qui font plaisir, que font partie de notre monde vraiment distinct. C'est ces personnages-là, dans le fond, qui empêchent l'assimilation du Québec. Quand l'Anglais nous guette pour en finir avec le Québec et nous angliciser, il ne peut pas prendre au piège ces gens-là par leur comportement libertaire et ils abdiquent devant
ces gens-là. Ça, c'était l'anti-rectitude politique, ces gens-là, cette génération-là. Puis c'était des wheeler dealers aussi. Ils étaient tout le temps en train dans des manigances pour essayer de trouver de l'argent. Puis tout ça. C'est pas des gens qui vivaient très riches, là, Régis Lévesque.
Non, non, des gens pauvres qui avaient acquémandé très souvent. Guy Aimond, il avait toujours le don de... Et puis quand il l'appelait la pie, Régis l'appelait la pie. C'est une pie, tu Guy Aimond, c'est une vraie pie. Et puis il me coupe la parole à la télévision, à la TV, tabarnak. Alors là, Guy Aimond, il avait toujours un moyen de te demander, Gilles, donne-moi 10 piastres, je m'en dégager, j'ai trouvé un Américain, me donner un tuyau, on va gagner après ça une course. Sur voir, on savait qu'il gagnait pas. C'était des perdants, il gageait constamment sur les gens perdants.
Toujours en se demandant, c'est quel gamic qui va pouvoir y rapporter 50 piastres, il se lavait le matin, c'est quoi la gamic aujourd'hui qu'il m'a trouvé, là?
Et Guy Aimond, c'était un peu ça, effectivement. Régis, lui, c'était toujours de trouver un gars assez riche pour financer ses combats. Et je me rappelle, Régis, quand j'avais organisé ce bien-cuit-là, ah ben là, j'étais rentré dans sa manche et son cœur. Et puis à un moment donné, j'avais eu des menaces, parce que durant la crise amérindienne, j'étais allé très loin. J'avais des menaces très sérieuses. Je parle de balles de carabine à Trois-Lieux. Puis j'avais juré d'aller animer une émission à Kahnawake, parce que Billy Two River, qui était un Mohawk que j'aimais bien, tous les deux, on s'était devenus comme amis, et j'avais juré d'aller, et là, j'avais pris un risque avec les menaces à plus finir. J'avais appelé Régis, j'ai dit, il y a une couple de gars qui promettent de me menacer demain, je m'en vais à Kahnawake. Même chose avec les pompiers qui avaient fait du trouble chez Magnan. J'ai dit, Régis, ça, ils vont être 550. Il y en a une couple qui promet de me casser ailleurs. Ah ouais, donne-moi 3-4 heures, tabarnak. Et 3-4 heures, après, ouais, écoute-moi bien, là, il va y avoir 12 gars, là, avec des nez écrasés, pis si t'as peur, tu vas te faire foutre ça, si tu bois le gars. Effectivement, quand tu rentres dans la taverne chez Magnan, Robin Cliroux, les trois Hilton et combien d'autres, toute la bande de l'écurie à Régis, je te dis que ça refroidissait les esprits et ça calmait tout le monde pas mal. Comme quoi, l'autorité est encore la meilleure méthode de te faire valoir.
Quelle époque quand même. Quelle époque, c'est drôle. En terminant, là, vous êtes vraiment pas content que l'opposition critique les 28 jours supplémentaires de M. Legault, là.
Oui, j'écoutais madame là que tu viens d'avoir, puis qu'elle va changer. J'ai bien la misère à croire ça, elle va changer. Alors pourquoi est-ce qu'elle appuie pas fermement le projet de Jolin Barrette? Si elle va changer, est-ce qu'elle va dire qu'on est une société distincte? Est-ce qu'elle va dire qu'on est une nation? Je pense pas qu'elle soit rendue là. Elle qui a quitté Legault parce qu'elle était présidente de son parti dans le temps, elle le trouvait trop radical et fanatique. Alors, pour rejoindre Legault, qui est loin d'être fanatique et radical, au contraire, c'est un modérateur incroyable. C'est pas pour rien que 75% des gens qui l'appuient. Faut que je doute beaucoup. Mais l'opposition, quand elle sait pas quoi dire, elle critique, puis là, elle n'a rien à dire.
Non, mais reste au moins quand même, elle a pris ses distances avec Philippe Couillard. Au moins, il faut quand même...
Oui, c'est un petit début, mais il faudra qu'on définisse un programme constitutionnel que Trudeau, le grand frère, va renverser, puis là, ils vont prendre leur trou comme toutes les souris blanches du Parti libéral. Hier, je voyais justement un changement de peur à Radio-Canada, Jolin Barrette. Bon, il y avait un plan costaud, là, pour redresser le français à Montréal. Je te dis qu'il y a du travail à faire. Il n'y a pas que Montréal, il y a le Québec au complet. On ne parle pas du visage commercial de Montréal américain. On ne parle pas de la valorisation du français. On ne parle pas de l'exode des jeunes cégepiens vers les cégeps anglophones. On ne parle pas du chèque en blanc pour McGill et Dawson. On ne parle pas non plus de Montréal qui s'anglicise ou de la ricaneuse est supposé avoir donné des ordres aux villes, aux agglomérations, où il se passe rien. On n'a pas entendu un maudit petit maire Roitelet élever la voix puis dire « Oui, oui, il y a un problème. » Alors, comme tu vois, le nationalisme au Québec, là, c'est un jeu de circonstances pour étourdir bien du monde.
Ben, on va y parler demain. Là, on va y parler demain, ville. Bonne journée.
Bonne journée à toi, mon cher.
Salut, au revoir.